fardeau de venir rencontrer des frères et sœurs un peu partout comme ça à travers la province du Québec. C'est justement un des domaines de mon ministère que j'apprécie le plus, de rencontrer des frères et des sœurs qui aiment Dieu, imaginez là, qui sont des fois plus isolés, mais qui sont aussi passionnés de Jésus. Si tu veux les rencontrer, ces gens-là, puis moi, je les vois comme des géants parce que, hey, il y a un prix à payer qu'on pourrait tous décider d'aller dans le même coin puis être ensemble, mais non, c'est pas ça que Jésus nous demande. Il aurait voulu ça, hein, Jérusalem, quand quand le Saint-Esprit est arrivé, trois premières prédications quand même, hein, première église, 3000 personnes qui se convertissent. C'est une grosse affaire, là. Puis ils étaient tellement bien ensemble. Puis après, il y a plusieurs milliers qui se sont ajoutés. Mais Jésus avait un autre plan pour eux autres. Il voulait qu'ils évangélisent le monde entier. Puis des fois, c'est une des façons qu'il a utilisées pour encourager l'Église à se répandre. Il a envoyé la prédication, la persécution. Imaginez, là. Alors, ça prenait ça pour que l'Église se décolle, puis elle puisse aller partager l'Évangile, le beau message de l'Évangile partout. Et c'est comme ça que le Québec en a besoin aussi. Un de mes frères à l'Assemblée me parlait de son expérience il y a 2 ans. Il était voyagé un peu partout à travers le Québec, puis il dit, « Hey, Louis, il y a des fois, là, je roulais pendant 3 heures de temps avant de rencontrer une église. » Ça démontre le besoin qu'on a de partager l'Évangile dans notre beau Québec. Et alors, c'est ça mon travail. C'est pour ça que j'étais content de venir ici, parce que j'aimais visiter les églises et je n'étais jamais venu ici à Saint-Félicien. Je pense que je suis déjà venu pour les Jeux du Québec quand j'avais à peu près 15 ans, mais je ne me souviens même pas si c'était exactement ici. Puis quand j'avais 12 ans, je suis venu à Roberval pour un jamboree, un ralliement scout. Alors, c'était mes deux expériences ici au lac et au Saguenay. Il faut que je dise les deux parce que j'apprends. Alors, ce matin, on va étudier ensemble comment est-ce que c'est important. Ça va dans la suite de ce que c'était pas volontaire, mais c'est connecté avec ce qu'on a étudié hier, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Donc, avant d'aller plus loin, quelle heure je dois terminer? Un quart, c'est bon, un quart, c'est excellent. Alors, des fois, je pose la question-là, puis le temps, il est fini. Alors, ça va mal. Un bon matin, Martin Luther, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des grands réformateurs. À vrai dire, c'est comme le premier. C'est de là que le mouvement protestant est venu. Les croyants se sont divisés de l'Église catholique à l'époque et... Martin Luther, c'est un géant de la foi. Et un bon matin, se lève et descend à la cuisine. Et son épouse est habillée tout en noir. Nous, on ne connaît pas beaucoup ça aujourd'hui, là, mais quand on s'habille en noir, à l'époque, ça voulait dire que... Un deuil. Hein? Quelqu'un est décédé. Aujourd'hui, on va au salon funéraire, puis il y a encore du noir, mais il ne va moins qu'avant. Là, hein? Et là, sa femme habillée tout en noir, il lui questionne, il dit « Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué? Est-ce que quelqu'un est décédé? » Et son épouse lui dit « Bien, à te voir si désespéré, c'est comme si Dieu était mort. » Elle l'écoutait sûrement chaque jour, ses doléances, ses plaintes à l'égard de la vie, de l'Église. Je pouvais même m'entendre me plaindre. Et là, des fois, la façon dont on parle, de la façon qu'on vit, c'est comme si Dieu était mort, ou que Dieu n'existait pas, ou encore qu'il y a très peu de place dans nos vies, là, qu'on a peu d'attentes, ça fait partie d'un des choix de la vie, mais c'est pas le choix le plus important. Parce que Dieu a peu de place, mais on le limite, on a peu d'attente envers lui, on n'en profite peu, dans le sens que au lieu d'aller se coller à lui, on va pas à lui souvent. On peut même tomber dans la monotonie. Oh, la vie chrétienne, là, c'est poche. J'ai entendu ça souvent, des gens dire que la vie chrétienne, c'est plate. Et je sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, moi, c'est pas plate. Je vous le dis, c'est rock and roll, hein, la vie chrétienne. En tout cas, la mienne, elle est comme ça. Et on peut même aussi être tellement déçu de Dieu parce qu'on a prié pour quelque chose puis que Dieu ne l'a pas répondu dans le sens qu'on l'attendait. Et là, finalement, on attend moins de lui parce qu'on est déçu de lui. Pourtant, le plan de Dieu, notre grand Créateur nous a créés pour être en relation avec lui. C'est le plan original de Dieu quand il a créé Adam et Ève. Avant que Adam et Ève désobéissent à Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le jardin? Ils se promenaient ensemble, ils parlaient ensemble, la communion était ouverte, ça allait dans les deux sens. Adam, il était parfait, Ève était parfaite. C'était fantastique dans ce jardin-là. Et malheureusement, le péché est venu puis a affecté principalement la relation de l'homme avec Dieu. Mais c'est toujours le désir de Dieu d'être en relation personnelle avec nous. Dieu, il veut qu'on ait cette intimité-là. Dieu veut qu'on soit proche de lui. C'est ça le désir de Dieu. Puis toute notre vie, c'est ça qu'il va essayer de faire. Il va permettre des fois les épreuves, les instructions, les influences dans nos vies pour qu'on puisse s'approcher de lui parce que c'est pour ça qu'on a été créé, pour être connecté à lui. C'est toujours le plan de Dieu, même si on ne le sent pas, même si on ne le fait pas. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on s'approche de lui. C'est pas sans raison qu'on ait étudié hier la fondation de la vie, de la foi, du leadership. C'est il est écrit, c'est, je ne sais pas si ça marche cette affaire-là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et cette citation-là vient de Deutéronome chapitre 6, dans lequel les Juifs répétaient continuellement tous les jours cette doxologie, cette déclaration de foi dans laquelle ils répétaient que Dieu est l'unique, que Dieu est le plus important de leur vie. Ils le répétaient tous les jours. Donc, lorsque Jésus a dit ça, il a expliqué que ça, c'est la fondation de la vie, la fondation de la foi. Dieu demande un amour qui consomme tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit hein, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est que c'est tout azimut. Peu importe la direction où tu regardes, on est capable de voir Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit au centre de ça. Puis à vrai dire, ça se vérifie comme un peu, il a posé la question tantôt à Brian, aimer Dieu, qu'est-ce que ça fait? Mais oui, ça se vérifie en pratique, ça se vérifie dans ton agenda, ça se vérifie, on n'a plus ça aujourd'hui, là, mais un carnet de chèques, ça se vérifie dans tes dépenses, ça se vérifie dans les propos que tu tiens, ça se vérifie dans tes loisirs. Ça se vérifie quand t'aimes Dieu. Parce que quand t'aimes quelque chose, ben quand t'es en amour, hein, t'as le goût d'être ensemble, là, tu laisses pas l'autre sur le banc ou tu fais toutes sortes de plans pour pouvoir être avec lui ou avec elle. Donc, c'est ça être passionné. Jésus a dit aussi dans Matthieu chapitre 6, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, ce qui est le plus précieux pour toi, ton cœur va être tourné vers ça. Tes passions vont être tournées. Moi, j'aime la pêche à la mouche, je l'ai dit hier, hein, je suis un amoureux de ce genre de pêche-là. Puis tout l'hiver, qu'est-ce que je fais, vous pensez? Je pense à mes voyages que je vais faire au printemps, là, puis je réserve les endroits, puis je contacte mes amis, puis là, je réserve mes dates. Quand je me suis marié, j'étais pas un passionné de la pêche à la mouche à ce moment-là, mais j'aurais sûrement mis dans mes vœux J'aurais demandé à ma femme qu'elle mette dans ses vœux qu'elle me laisse aller à la pêche régulièrement. Mes gars, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que j'aime la pêche, et puis parce que j'aime la pêche, ça paraît dans ma vie. Tu sais, quelqu'un qui dit qu'il aime la pêche, puis qu'il ne va jamais à la pêche, il n'aime pas la pêche. Alors, quand on aime Dieu, ça se vérifie dans nos vies. Ce qu'on chérit le plus dirige nos passions, et nos passions dirigent nos vies. Puis ça, ça nous révèle ce qui est de plus précieux dans nos vies. Tozer, qui est un auteur qui aime beaucoup parler de toute l'intimité, l'adoration du croyant, il dit « Nous pouvons vouloir Dieu, mais nous voulons davantage quelque chose d'autre. Et nous obtenons ce que nous voulons la plupart du temps. » C'est tellement intéressant quand Tozer il nous écrit ça. C'est qu'il nous dit que on a été créé pour être en communion avec Dieu, mais il y a quelque chose d'autre qui prend la place, puis ce quelque chose d'autre-là, habituellement, on peut le nourrir. Donc, moi, j'aime la pêche à la mouche. Je vis dans un pays où j'ai les moyens de m'acheter des cannes à mouches, de m'acheter une chaloupe. Alors, j'ai la capacité d'investir dans ma passion. Et comme on va le voir dans quelques instants, ma passion peut me dérober Dieu de sa place. Ma passion peut devenir plus importante que Dieu. J'aime tellement ce passage-là dans le psaume 42. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Mon ami, est-ce que vous soupirez après Dieu comme ça? Écoutez, je suis la même nature que vous, puis c'est pas toujours comme ça. Hein? On soupire après d'autres choses que Dieu. Une version paraphrasée nous dit « Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Hein? » Une soif de Dieu, là, une faim de Dieu. Un des auteurs que j'aime beaucoup, qui nous parle beaucoup de ça, c'est John Piper. Comment est-ce qu'on doit être des hédonismes chrétiens? C'est-à-dire que notre joie, on ne la trouve pas dans les choses de ce monde, mais on les trouve dans la présence de Dieu. C'est ma prière, c'est mon désir. Puis comme je l'ai dit hier, c'est pas tellement important où on est rendu dans notre cheminement. Ce qui est important, c'est où on s'en va. C'est-à-dire, est-ce qu'on a ce désir-là de s'approcher de Dieu? Est-ce qu'on a ce désir-là d'avoir la faim et la soif de Dieu? Malheureusement, depuis la chute, depuis la désobéissance de l'homme et de la femme, il a continuellement remplacé la présence de Dieu au centre de nos vies par quelque chose d'autre, par une autre passion. Jean Calvin nous dit que l'être humain, c'est une manufacture à idoles. Hein? Tu enlèves une idole dans ta vie, qu'est-ce qui va arriver? Il va en avoir une autre qui va se présenter puis que tu vas désirer. Une idole, c'est quelque chose qu'on désire, qu'on est passionné puis qui prend la place de Dieu. Parce que d'aimer la vie, Dieu n'est pas contre ça. Dieu a donné la sexualité, il n'est pas contre ça. Mais ça peut malheureusement se produire, et ça se produit, que dans nos vies, on va désirer quelque chose d'autre, qu'on va désirer Dieu. Et ce que John Piper nous dit aussi, c'est qu'il nous dit qu'un des obstacles à notre amour pour Dieu, ce sont les bénédictions de Dieu. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que quand Dieu nous donne quelque chose, on aura tendance à s'attacher à la bénédiction que de s'attacher à celui qui l'a donné. Hier, je parlais de ça avec l'épouse de Brian. Hein, les êtres humains, hein, Dieu nous donne un conjoint. C'est un cadeau? Bien, je pense la plupart du temps, c'est supposé être un cadeau. Hein, vous êtes d'accord? Il nous donne un conjoint, puis là, on aime le conjoint, on s'attache à son conjoint. Puis malheureusement, si on ne fait pas attention, on peut plus s'attacher à son conjoint qu'à Dieu, plus s'attacher au cadeau des enfants qu'à Dieu, plus s'attacher à son travail que Dieu, plus s'attacher à la pêche à mouche qu'à Dieu. C'est comme ça. Les cadeaux sont des fois des malédictions au lieu d'être des bénédictions. On aime son pasteur, puis c'est bien, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pourquoi on l'aime? Parce qu'il nous fait du bien, en principe. Et, mais le plan de Dieu, c'est qu'on s'attache à Dieu, puis c'est Dieu qui passe au travers le canal de l'homme. Mais c'est encore Dieu qui est la source. Et si le canal s'en va, notre vie ne s'écroule pas parce que Dieu reste la source, celui qui pourvoit la bénédiction dans nos vies. Et malheureusement, c'est qu'on désire plus les cadeaux que Dieu. C'est un grand défi quotidien dans nos vies. Le slogan de notre nouvelle vision qu'on a présentée au banquet l'année passée, ça disait « plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile ». Mais l'ordre des choses dans ce slogan-là est tellement important. On ne peut pas penser avoir plus de disciples, puis on ne peut pas penser avoir plus d'Église si on n'a pas plus de Jésus. C'est ça qu'on a vu hier matin, c'est que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'es pas connecté à la source de l'amour de Dieu. Et pour revenir à ton commentaire, mon frère, lorsque tu parles de leadership, c'est que tous les principes de leadership, les principes d'autorité, les principes de direction, ils sont tous bons puis nécessaires. Mais il y a des fondations qui précèdent ces habiletés-là. Et dans l'Église, surtout dans l'Église, on veut des leaders qui aiment Dieu, des leaders qui sont passionnés de Dieu. Parce que s'ils aiment Dieu puis sont passionnés de Dieu, ils vont vous aimer comme il faut. Ils vont prendre soin de vous comme il faut. Même chose pour les enfants. Si on aime Dieu, on va aimer nos enfants comme il faut. Et avant de bâtir cette nouvelle vision-là, on a consulté plus de 250 personnes de toutes les régions du Québec. Puis c'était un des commentaires qui revenait. Les croyants trouvent qu'ils ne sont pas assez passionnés de Dieu. Et c'est pour ça que notre slogan, c'est « plus de Jésus ». Il faut plus de Jésus. Parce que plus de Jésus, ça change tout le reste. Ça met toutes les choses à leur place. Quand tu regardes l'histoire de l'Église, tous les matins, je fais une méditation quotidienne, puis chaque méditation, c'est l'histoire, une biographie d'un croyant qui existait depuis 2000 ans. Et là, je lis ces histoires-là qui sont assez dérangeantes, assez bouleversantes, parce que là, tu lis l'histoire d'un homme, d'une femme qui s'en va en mission, qui perd ses enfants, qui perd son conjoint, qui est persécuté, qui est emprisonné. Aïe, comment ils font ces gens-là pour servir Dieu comme ça? C'est possible s'ils aiment plus Jésus. Autrement, ils ne vont pas le faire. On ne va pas aller en mission si on n'est pas plus de Jésus. C'est à cause de son sacrifice. Et ce matin, j'aimerais ça regarder avec vous un passage qui nous invite à plus de Jésus, un passage qui est bien connu dans Apocalypse chapitre 2. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Passage que, si vous avez quelques années dans la foi, vous l'avez certainement lu et même étudié. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7 nous dit « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaites, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Super passage, et c'est toujours un peu compliqué de prêcher un passage qu'on connaît bien ou qu'on a déjà entendu parler à quelques reprises. Mais quand même si on le connaît bien, est-ce qu'on le vit vraiment bien? Ça, c'est une autre histoire. L'Église d'Éphèse a été fondée par l'apôtre Paul et fait partie de ce qu'on appelle les lettres, les sept lettres du livre de l'Apocalypse. Les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse sont écrits dans le même style littéraire. Ont le même but que le livre entier, le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qui a été écrit pour que les chrétiens puissent savoir c'est quoi qui va se passer dans le futur. Ce n'est pas le but. Hein. Le but, il est donné au verset 1 du chapitre 1, « Révélation de Jésus-Christ ». Donc, si vous lisez l'Apocalypse, essayez de voir toujours qu'est-ce que le livre vous dit ou vous enseigne sur Jésus. Et là, dans le livre, dans le chapitre 2, ici, dans la lettre de l'Église aux Éphèses, il nous donne un message de Jésus à l'Église pour l'Église d'Éphèse. Des gens, au travers de l'histoire, ont essayé d'interpréter à quoi les sept lettres font référence. Certains disent que ça fait référence à sept époques. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est sept églises qui ont existé, puis c'est sept types d'églises qui peuvent exister à travers le monde entier. Et donc, le chapitre 2, la première église, l'église d'Éphèse, c'est un type d'église qui peut nous se concerner à nous, qui touche l'église de Saint-Félicien. C'est quoi le message? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce message au sujet de Jésus qui concerne l'église de Saint-Félicien? L'église d'Éphèse, c'était une église qui avait été implantée depuis quelques années et qui avait été prospère. La ville était prospère à cause de son port qui apportait beaucoup de commerce dans la ville, donc l'argent était assez présent. Et deuxièmement, il n'y avait pas d'armée, de garnison romaine qui était proche de la ville. Donc, il y avait une certaine liberté d'expression dans la ville, que ce soit pour les Grecs ou même que ce soit pour la foi. Mais tranquillement, le commerce dans la ville avait diminué. Puis là, c'était ce qui a rendu la ville connue, c'est à cause de son temple de la déesse Artemis ou de la déesse Diane. Donc, c'était une ville dont les païens, l'idolâtrie étaient très présentes. Et on s'est questionné s'il n'y avait pas une influence malheureuse, comme ça arrive le cas, de tout ce monde idolâtre qui commençait à influencer l'Église. L'Église semblait comme perdre tranquillement ses racines, ses priorités, puis que là, se laissait influencer par le monde autour d'eux. Alors, Jésus a un message pour cette Église-là, cette Église qui existe depuis plusieurs années et qui a déjà eu des grandes choses se sont produites, mais tranquillement, l'idolâtrie est en train de faire place dans la vie de l'Église. Alors, la première chose que Jésus dit à cette Église-là, comme un bon pédagogue, il va parler premièrement de ses éloges. Il va lui dire que cette église-là, hey, c'est une super église quand même. Une église qui avait beaucoup de fruits qui sortaient de cette église-là. Comme on va le voir, la première chose que les fruits, c'est qu'il dit, c'est une église qui est travaillante. Une église qui avait des œuvres. Une église, tantôt vous avez parlé, qui fait « j'aime mon voisin ». Une église qui s'occupe des enfants, une église qui aide les pauvres, une église qui est à l'œuvre, qui a des fruits. Hein? Et Jésus, il dit, « Je connais ton travail. » Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur qui a entendu dire. Au début, Jésus, il dit qu'il marche au milieu de l'église. Donc, il sait exactement ce qui se passe. Il voit des belles choses dans la vie de l'église. Non seulement c'était une église travaillante, mais c'était aussi une église persévérante. Hein, le texte il dit ici, « Je connais ta persévérance, que tu as de la persévérance, que tu as souffert de mon nom et que tu t'es point lassé. » Hein, donc, c'est une église qui a peut-être été persécutée par les idolâtries de l'époque, puis qui tient le coup. Hey, c'est quand même extraordinaire, l'église de Saint-Félicien, même si vous n'êtes pas nombreux, depuis que M. Côte-Noire a implanté l'église, vous êtes encore là. Wow! Persévérant! C'est glorieux, ça! C'est glorieux, surtout quand tu te fais brasser la cacane, là, je veux dire... Que tu te laisses, t'acceptes que tes amis vont se moquer de toi, que tu vont rire de toi. Mais non, tu continues parce que moi, mes yeux les garde sur Jésus. Une église travaillante, une église persévérante, une église qui protège la vérité, parce que dans le texte, il nous dit ici qu'elle était capable de discerner le vrai du faux. Il dit, « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, qui sont des menteurs. » Il était capable d'entendre des discours, puis il était capable de voir ce qui était vrai puis de ce qui était faux dans ce qui était dit. Il dit même, un peu plus tard, il dit, « Et tu as pourtant ceci, tu hais les œuvres des Nicolaïs, œuvres que je hais aussi. » Donc, encore une fois, non seulement il était capable de voir le vrai du faux, mais il voyait même un groupe qui se présentait comme des apôtres, un groupe qui était les Nicolaïtes. Les historiens disent que c'était un groupe qui disait que parce qu'on n'est plus sous la loi, on peut faire ce qu'on veut. Donc, l'immoralité, tous les péchés, ça ne dérange plus parce qu'on n'est plus sous la loi. Reconnaissez-vous des choses qui existent encore aujourd'hui? Hein? Des fausses doctrines, des faux docteurs, on en a encore à l'appel aujourd'hui, puis c'est bien plus compliqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça vient dans nos maisons, au travers Internet. Et c'était particulièrement florissant durant la période de la pandémie. Parce que là, les chrétiens se sont mis à visiter, puis là, je me souviens, un chrétien, il disait, « Hey, R.C. Sproul, là, c'est tout un prédicateur, c'est pas comme nos pasteurs. » Ben, j'ai dit, premièrement, il y en a juste un R.C. Sproul, puis s'il fallait qu'il dépende juste de R.C. Sproul, on serait dans le trou, là. Les pasteurs, Dieu les utilise, même s'ils sont moins bons que R.C. Sproul. Tu sais, ce matin, hier, je disais, là, quand moi j'ai commencé pasteur, là, j'en ai dit des stupidités. Là. J'étais jeune, pas d'expérience. Je me suis formé au travail en même temps que j'étais pasteur parce que c'était une jeune église, puis c'était une église, c'était bourré de monde, il fallait s'en occuper. Je savais pas comment, je l'ai appris sur le tas. Mais Jésus, il a pris soin de son Église. Là. S'il fallait que l'Église dépende de moi, là. Mon ami, vous êtes dans le trou. Alors, une Église travaillante, une Église persévérante, une Église qui défend la vérité, on pourrait presque dire que c'était une bonne Église baptiste. Mais Jésus ne fait pas juste l'éloge. Et accusation contre l'Église. À partir du verset 4, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Moi, il y a des genres de phrases comme ça dans la Bible qui me dérangent. Souvenez-vous quand les disciples... Ils sont avec Jésus sur la montagne, la transfiguration, puis là, ils descendent la montagne. Puis là, il y a un attroupement parce qu'il y a un père qui a un fils démoniaque puis que les disciples sont incapables de chasser les démons. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Il dit, « Combien de temps devrais-je vous supporter? » Moi, je ne veux pas qu'on me dise ça. Je ne veux pas que Jésus me dise ça. Ça me mettrait vraiment mal à l'aise. Mais ce que j'ai contre toi, Louis, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça piquerait mon cœur, drette là, là. Pourquoi? Parce que même si des fois, là, je suis... sans dessein, parce que je m'attache plus aux bénédictions qu'à Jésus lui-même. J'aime quand même Jésus. Mais j'apprécie que Jésus me le dise parce qu'il remet le pendule à l'heure. Imaginez le choc, une église zélée, travaillante, persévérante, à travers la souffrance, solide doctrinalement, mais il lui manque l'essentiel, il lui manque l'amour. À quel genre d'amour il fait référence? À l'amour dans l'église ou à l'amour de Dieu? Comme on l'a vu hier, c'est inséparable. Quand il y a un manque d'amour dans l'église, c'est parce qu'il y a un manque d'amour avec Dieu. Quand il y a un manque d'amour dans le mariage, c'est parce qu'il y a un problème avec Dieu. Puis si on veut travailler, investir dans son mariage, il faut investir avec Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la patience, la bonté. Il n'y a pas de mariage qui résiste à ça, là. Ça produit des fruits, ça change nos relations. Ça change nos relations dans l'Église. Mais ça commence avec Dieu. C'est là que c'est qu'il faut régler le problème de fond. La tiédeur affective du peuple de Dieu envers Dieu, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est quelque chose qui existait même dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie, chapitre 2, versets 2 à 5, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses néant et n'être eux-mêmes que néant? Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'on se détourne de lui? La source de la vie, la source de l'amour, de tout ce qui est bon pour nous. C'est parce qu'on a aimé quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que cet examen de conscience-là était tellement un problème et est encore un problème. Et notre amour pour Dieu, c'est la réponse logique et attendue à la réponse de l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 12, j'aime ça, il nous dit ici, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le chapitre 12, c'est une transition dans le livre de l'Épître aux Romains. Et ce que l'apôtre Paul fait, c'est que pendant les 11 premiers chapitres, il enseigne toutes les grandes doctrines du salut. Puis il explique aux Romains comment est-ce que l'Évangile, c'est quelque chose de grand et d'extraordinaire, expression de l'amour de Dieu. Et là, il arrive au chapitre 12 que la conséquence raisonnable de ce qui se produit, c'est « Je vous exhorte donc, à cause de toutes les bontés de Dieu, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. » Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de te donner à Dieu. Il dit « ce qui sera de votre culte raisonnable ». Le mot « raisonnable », c'est le mot grec pour « logizomai », dans lequel on a le mot « logique ». C'est logique que d'offrir ton corps à Dieu quand tu comprends l'amour de Dieu. Autrement, c'est illogique. Alors, ce que Dieu attend de son Église qui comprend l'Évangile, qui comprend le grand amour de Dieu, c'est d'aimer Dieu en retour. C'est une réponse logique à l'amour de Dieu. Une Église qui est travaillante, mais travaillant pour Dieu, bien motivée. Sa motivation pour son travail, c'est parce qu'elle aime Dieu. C'est facile de servir dans l'Église sans aimer Dieu. Croyez-moi, c'est facile pour des pasteurs, pour des leaders de servir Dieu sans aimer Dieu. Qui servent l'Église ou qui servent pour eux-mêmes, parce que ça leur apporte des bénéfices personnels. Ça augmente l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, le service, ce n'est pas toujours un signe que les choses vont bien. Hein? Tantôt, je vous lisais, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de ton prochain comme toi-même. » C'est l'amour de Dieu qui alimente et qui nourrit notre service pour notre prochain. L'Église d'Éphèse faisait beaucoup d'œuvres, mais sans que Jésus soit en premier. Dans Exode 20, verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Ce qu'il nous dit ici, c'est que quand on aime quelque chose d'autre plus que Dieu, bien, ça l'offense Dieu. L'Église d'Éphèse avait déjà connu le premier amour. Et c'était une Église qui avait déjà aimé, parce que dans le texte, il dit « Reviens à ton premier amour. » Mais son amour s'était détourné. Parce que, et c'est pour ça qu'on pense que ça fait référence à l'amour de la conversion. Quand tu t'es converti, puis que tu as compris l'Évangile, puis que tu as compris comment Dieu t'aimait, là, à ce moment-là, là, tu étais tellement excité, tu étais tellement content de comprendre l'Évangile, tu étais tellement content de comprendre que tu étais pardonné, que tu étais sauvé pour l'éternité, là. Hey, là, tu sais, c'est... Hey, moi, je me souviens, moi, quand j'étais jeune chrétien, là, j'étais zélé, puis que... Ah, là, j'étais tellement prêt à tout faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, puis... Wow! Un grand amour. Puis c'est ça, le plan de Dieu, c'est encore d'avoir ce grand amour-là. C'est comme dans le mariage. Tu sais, Dieu veut qu'on soit mariés toute la vie. Vous êtes d'accord avec ça? Oh, c'est un petit « why ». Mais le plan de Dieu, là, c'est pas de rester marié 50 ans, je suis désolé. Là. Le plan de Dieu, c'est qu'on s'aime de plus en plus pendant 50 ans. C'est ça le plan de Dieu. Hey, franchement, là, moi, j'aime tellement plus ma femme aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Puis en plus, je la connais bien mieux. Je connais ses qualités, puis je connais ses défauts. Mais Dieu a fait ce miracle-là parce que je l'ai dit hier, moi, nous, les 10 premières années de mariage, là, ça a été tough, c'était la guerre dans notre relation. Puis à un moment donné, on a été chercher de l'aide, puis on dirait que c'est là que je me suis réveillé. C'est même pas parce qu'on a été chercher de l'aide, ça a été... Je dis, Dieu, il dit, « Marie, aimez votre femme comme Christ aime l'Église. » Là, on dirait que j'ai allumé. Ça a pris 10 ans, imaginez. Il apprend pas vite. Il y a de l'espoir. C'est bon, ça. Et là, d'un coup, je dis, « Aime donc ta femme, puis abandonne tes droits. » Wow! Le cercle vicieux dans lequel on était, puis qui nous amenait toujours dans des problèmes, ça a cassé. Puis là, d'un coup, ça a tourné dans l'autre sens, dans le cercle merveilleux de la croissance. Et là, on a vraiment commencé à s'aimer d'une manière qui honore Dieu. J'étais pasteur à ce temps-là. Mais je vous l'ai dit, j'étais jeune. Il a fallu que je l'apprenne. Et en me connectant à Dieu, en m'approchant de Dieu, je trouve en Dieu tout ce que j'ai besoin pour aimer ma femme, passionnément, l'aimer. Et ce que ça le fait, c'est que mes enfants, les petits yeux, les témoins, là, ils voient tout d'un coup un papa qui aime sa femme, qui aime leur mère. Ça donne le modèle, le legs qu'on a étudié hier, l'héritage qu'on donne à nos enfants. Une église travaillante, oui, mais qui est passionnée de Dieu. Une église persévérante, mais qui est passionnée de Dieu. Parfois, la vie chrétienne, là, quand c'est juste la persévérance, là, c'est vraiment poche. C'est plate, la vie chrétienne. Quand tu fais juste ce qu'il faut, parce qu'il faut faire, puis aller à l'église, parce qu'il faut aller à l'église, c'est pas le fun. Ça fait une adoration terrible. Mais quand on vient à l'église parce qu'on aime Dieu, puis que là, on est content de rencontrer nos frères et nos sœurs, on est content de chanter des louanges à Dieu, on est content de servir dans l'école du dimanche, c'est vraiment fantastique. Quelle différence que ça fait! Une église disciplinée sans amour, qui fait la discipline, la doctrine. Hein. La doctrine, c'est important, là. Sans amour, ça fait des églises froides. Ça fait des églises... la vérité sans l'amour, là, on n'en veut pas de ça. La vérité dans l'amour, Alors, ce que Jésus fait, c'est qu'il fait ses recommandations. Il dit... Maintenant qu'il a fait le diagnostic, il fait ses recommandations, il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. » Pourquoi c'est comme ça dans ta vie? C'est-tu à cause d'une blessure? C'est-tu à cause d'une personne? C'est-tu à cause d'une idole? Tu réfléchis, qu'est-ce qui m'empêche d'aimer Dieu? Pourquoi j'aime plus Dieu passionnément? Et c'est là qu'il faut que tu te questionnes sur ta vie. Et ce que Jésus lui dit, « Repens-toi. » La repentance, c'est un changement de direction. J'allais dans une mauvaise direction, puis là, maintenant, je vais dans une nouvelle direction. Deux Chroniques 7, 14, on connaît bien ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Non seulement il dit « Repens-toi », mais il dit « Si tu ne le fais pas, ton église va mourir ». Il dit, je vais enlever le chandelier. Et malheureusement, l'histoire de l'Église est remplie de ces exemples-là. Hier, je mentionnais que c'est rare qu'on célèbre les 500 ans d'une Église. C'est rare qu'on célèbre les 1000 ans d'une Église. Tôt ou tard, ils meurent. Parce que tôt ou tard, ils se détournent de leur amour pour Dieu. Alors Jésus termine en disant, comme il le fait à chacune de ses lettres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que tu l'entends ce matin? Est-ce que tu es prête à changer de direction? C'est tellement important parce que ça a un impact sur tous les domaines de ta vie. J'aime cette illustration-là. Il y a deux raisons pourquoi les jongleurs sont capables de tenir une assiette lorsqu'ils jonglent avec. La première, c'est à cause du mouvement, mais il y a une autre raison. C'est qu'il faut que le petit bâton soit exactement au milieu. S'il n'est pas au milieu, l'assiette s'envole. Et je trouve que c'est une belle image de ce que ça devrait être dans nos vies. Quand Dieu, là, il est au centre, tout le reste est en équilibre. Lorsqu'on aime Dieu passionnément, les moyens deviennent secondaires. Les moyens deviennent efficaces. Mais on ne peut pas déplacer le petit bâton du centre. Autrement, ça dérape. Prions. Seigneur Jésus, c'est encore tellement un bon message pour moi-même. Seigneur, comme mes frères et mes sœurs, Seigneur, à cause de ma nature humaine, je suis toujours tenté d'aller dans une autre direction, d'avoir une autre passion que toi. Et Seigneur, c'est pas ma prière, c'est pas mon désir. Je prie pour la belle église de Saint-Félicien afin que ça soit palpable, qu'on est capable de voir que cette Église-là est premièrement motivée par un amour extraordinaire pour toi, un amour passionné. Je te prie pour nos familles, comme on a vu ce matin, Seigneur, on a besoin que tu sois au centre pour que nos mariages te glorifient. Comme tu nous dis dans Matthieu chapitre 5, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et que le Père soit glorifié. Seigneur Jésus, bénis le témoignage de cette Église, bénis les familles de cette Église, bénis le leadership de cette Église. Amen.
Merci. Bienvenue.